L'œil du phare, chapitre 9. Loin de la terre natale. À la ville, qu'il n'avait encore jamais vue, sous les yeux de Jean s'offre un aspect tout nouveau de la vie. Au village de Saint-Germain, il ne rencontrait guère personne qui ne sût ce qu'il en était de son être et de ses moyens intellectuels et matériels. Dans la grande cohue de la ville, il n'est plus qu'un grain de sable, confondu au milieu de couches diverses d'humanité. Tout cela qui tourbillonne au souffle d'intérêts divers. Ils ont aussi comme lui le secret de leur vie, un motif d'activité, une ambition, une angoisse peut-être qui les tourmente. Tout cela conjure les soucis du présent en vue des espoirs de l'avenir. Alors, le spectre du travail et de l'effort personnel se dressa devant lui. Il voulut se rappeler tout ce que lui en avait dit déjà Émile Dupin dans leur conversation si intime à bord du yacht, le Dauphin. Il eut une idée plus compréhensive de la vie humaine en ce monde et pour ce monde, et il se laissa très vivement impressionner pour la première fois des dernières paroles de son vieux curé de Saint-Germain, lui recommandant de se faire quelqu'un par son travail, par lui-même. Fallait-il pour cela retourner dans son village, s'astreindre à y végéter entre des souvenirs et des privations? N'allait-il pas plutôt chercher la protection du cousin riche là-bas? Non, ce serait encore la dépendance, une mendicité déguisée. Le caboteur des prés, après 15 jours de cueillette et de chargement, en destination des postes de la rive nord du Saint-Laurent, a fixé son départ à la marée du lendemain. Jean, sans autre ressource que son travail disponible, mais non encore en valeur, peut-il être moins humilié de le suivre dans ses courses pour vivre de son aide qu'il ne l'eût été de recourir à son cousin riche? Il savourait ce fruit amer de son orgueil, dans la perspective d'avoir à s'attacher à ce besogneux ou de battre les pavés du port avec la cohorte de tant d'autres désœuvrés, lorsque ses pas distraits le conduisirent à la veillée une dernière fois sur la grande terrasse où il aimait à repaître son esprit et ses yeux du spectacle de la vie heureuse. Le beau monde de la ville était là. Le paria s'y laissa entraîner sans plus de résistance qu'un débris d'épave dans le ras de marée. Un instant seulement, une musique fascinatrice, s'échappant de la rotonde du château Frontenac, lui fit dresser la tête, ce qui suffit pour lui laisser apercevoir à l'une des fenêtres du superbe édifice un couple fashionable jouissant du grandiose spectacle. Monsieur le docteur Hector Hardy et sa toute jeune épouse aiment tant le faste et la musique. Au môle de la basse ville où se trouve amarré le bateau de Charles Després, un vapeur français du port de Brest serait aussi en partance pour le lendemain, si l'on pouvait seulement compléter l'équipage, auquel il manque un manœuvre indispensable. Jean, qui n'avait pu acquérir chez son éducateur une connaissance bien pratique de la langue anglaise, s'était plu depuis 2 semaines à fréquenter de préférence cet équipage français. Aussi ne fut-on que médiocrement étonné, sauf Charles Després qui pensa suffoquer. Lorsque Jean, ce soir-là, descendant de la ville, au lieu de rallier son bord accoutumé, courut offrir ses bras, son service et son sort au capitaine français. Sa détermination subite résista aux remontrances amicales du père de Rose. La seule chose que le jeune homme demanda à ce dernier, ce fut d'accepter un sous-saint privé à l'appui de cette réponse. « J'ai bien réfléchi, monsieur Després. Je vous remercie de m'avoir éloigné de Saint-Germain. Si je n'allais plus jamais revenir, je veux que la pauvre maison de ma mère appartienne à Rose, qui, elle, ne sait qu'aimer, se dévouer et prier. En y priant pour les miens, je suis sûr qu'elle prierait pour moi, aussi bien disparue. » Le lendemain, après-midi, le Destin, navire à vapeur du port de Brest, sortait du bassin de Québec et disparaissait au tournant de la pointe Lauzon. Au milieu de son équipage, joyeux de revoir encore une fois la patrie française, le novice Jean Pellerin voit pour la première fois fuir à ses yeux la patrie canadienne. le branle-bas de partance, l'initiation à son travail durant les premières heures de la course, ne lui ont pas permis d'en bien réaliser le fait. Mais sur la fin de la soirée, seul et réfléchi, il prête une oreille attentive à la conversation du pilote et d'un jeune lieutenant là-haut sur la dunette. Le ronflement de l'hélice et l'ébrouement de l'étrave dans l'onde enténébrée ne l'empêchent pas d'entendre distinctement ces voix solitaires qui s'élèvent dans la nuit. Et ces trois feux de marine qui scintillent de fil à tribord, qu'est-ce donc, pilote? La pointe aux orignaux que nous avons dépassée, la grosse île de Saint-Germain en ligne droite et les pèlerins en aval. Jean se dit que si son œil pouvait percer les ténèbres comme le fait son cœur, il verrait en ce moment, là-bas, au ras du rivage, une pauvre maisonnette aux pignons rouges, une église à demi masquée par les arbres d'un cimetière, et que tout au fond des eaux qui gémissent sous son passage, les restes de son père sont là, privés d'une sépulture chrétienne. Cette lumière de Saint-Germain qui vacille et fuit déjà dans le lointain, n'est-ce pas l'âme de son père, l'âme des ancêtres, l'âme de la patrie canadienne qui s'émeut de sa désertion dans ce vaisseau ravisseur? Ce vaisseau-là, pourtant, c'est une partie de la vieille patrie française d'autrefois, celle qu'ont aimée les ancêtres, chère mère grand, toujours chérie, mais dont l'imprévoyance a fait qu'elle n'est plus pour nous la patrie. Cette lumière, ne serait-ce pas la légende familiale qui à chaque génération s'anime d'un éclat nouveau sur les berceaux pour s'éclipser momentanément sur les tombes? Cette lumière symbolique qui raviva l'œil mourant de sa pauvre mère et que celle-ci lui recommanda comme un legs d'amour filial et sacré à ne jamais oublier. Jean comprend alors ce qu'elle dit de la vraie patrie natale, ce qu'elle remémore de tous les siens. C'est le souvenir intermittent des tristesses et des joies, ainsi que des faits géographiques, au milieu desquels s'écoulèrent ses premières années de vie, qui va maintenant le poursuivre, comme l'œil de la conscience, sous tous les cieux. Et, nouvelle souffrance pour lui jusqu'alors inconnue, il sent qu'il y a, au fond de son cœur, des attaches très intimes et très fortes qui se rompent cruellement. Des liens qui le retiennent à la terre natale et que l'on ne soupçonne pas toujours avant de la quitter. Dans ce village endormi où il ne croyait avoir à regretter que des affections mortes, il lui reste pourtant un cœur de vieux prêtre qui va souffrir de sa désertion et un amour candide qu'il ignore. C'est pourquoi, peut-être, les souvenirs de son enfance malheureuse, mais paisible, refluant à son esprit, s'offrent en contraste avec les agitations mondaines et la course aux intérêts cupides dont il avait été témoin pour la première fois dans la ville. Leçon de choses, enfin, sur la vie sociale qu'il avait apprise en une année. Ces regrets imprécis qui travaillent son âme, les voix mystérieuses clamant de cette terre qu'il ne voit même pas, mais qu'il s'enfuit dans les ténèbres avec les visions de son enfance, ne serait-ce pas cela, l'amour de la patrie? Avait-il donc raison, le vieux curé de Saint-Germain, qui voulait depuis si longtemps lui en apprendre la force et le charme? Ce que Jean ne devra bien comprendre qu'après avoir aussi, lui, pleuré sur les eaux de Babylone. Dans ses courses à travers le monde et ses aventures maritimes, Jean Pellerin verra maintenant s'élargir à son regard et à son esprit l'horizon des choses et des idées. Il lui est resté de ces lectures qu'il aimait tant à entretenir de récits de voyage, nous savons cela, des connaissances géographiques, même ethniques, qui lui donneront bientôt sur ses camarades de peine un ascendant intellectuel dont il ne manquera pas d'apprécier plus d'une fois la valeur. Et dans cette existence de marin pourtant improvisée, il subira encore une fois comme l'impression déjà ressentie d'une vie déjà vécue. Reflet de la vie de ses pères sur son état d'âme, comme celui du phare de Saint-Germain à la fenêtre du Pignon Rouge. Le négoce maritime l'entraîna au cours de l'hiver dans les grands havres du littoral français, jusqu'à Dieppe et Calais, sur la Manche, et jusqu'à Bayonne, sur l'Atlantique, changeant aux besoins de bord et de service. partout son esprit inquisiteur et sérieux s'occupa de compléter l'instruction à base religieuse et classique qu'il devait à la charité de son vieux curé. Cette instruction qu'il n'a pas voulu parfaire au collège, il la recherche maintenant avec avidité dans ses pérégrinations, qu'il désire bientôt diriger vers les eaux du Midi et du Levant, où l'appellent les réminiscences de ses premières révélations puisées dans les livres. Quand il aura beaucoup vu, il pourra beaucoup abstraire et mieux comparer pour mieux apprécier ce qu'il y a de vrai et de faux dans la vie. Un soir du mois de juin, sur la grande promenade d'un paquebot sorti du port de Marseille, un couple de touristes américains s'entretient à la douce clarté du ciel étoilé dont les scintillations animent les flots bleus. Vêtus à la mode du Nouveau Monde, dont la population fortunée s'en va périodiquement d'accoutumer promener son opulence et son insouciance aux pays intéressants de l'ancien, ils jouissent à l'écart de l'agrément anticipé de cette navigation qui doit les conduire de Marseille à Rome, de Rome à Naples et à Palerme. Le jeune homme, plutôt sérieux, s'impressionne visiblement de ce départ de plaisance et peut-être plus intimement du début de sa vie émancipée qui lui a fait quitter les siens, au bras de sa jeune épouse, avec la responsabilité encore trop nouvelle de son bien-être et de son bonheur. La jeune femme, plus folâtre, se plaît à mille questions dont elle accueille les réponses avec des petits cris exclamatifs des plus jolis et des plus maniérés. En bas, sur le pont des manœuvres, accoudé au bastingage, un marin, jeune et robuste, à la vareuse de laine bleue largement ouverte sous la gorge, hume aussi, lui, rêveur, la bonne brise du soir. La dame, qui veut paraître impressionniste à son tour, appelle sur lui l'attention de son mari. « Ne dirait-on pas, Émile, que ce beau marin souffre de quelques grands regrets ? Celui, sans doute, des êtres, des lieux qu'il a quittés ? Pourquoi se tient-il là seul et non avec le reste de l'équipage ? Il est étranger, peut-être ? Il a quitté peut-être une mère, des sœurs, une fiancée, peut-être ? Un foyer paternel et lointain dont il rêve ? Oh, que cela est triste ! Émile Dupin regarde avec un intérêt de plus en plus grand le marin qui fait maintenant l'objet de leur conversation jusque-là oiseuse et distraite. Un officier du vaisseau passe auprès d'eux et lui demande à quelle race appartient ce matelot. « Ce gabier-là qui attend l'heure de se hisser à son quart, c'est un Français du Canada, monsieur. » Au même instant, le rêveur s'est retourné face à un puissant falot de course, et le touriste américain crut reconnaître les traits de son cousin Jean Pellerin. Non plus qu'autrefois, lorsqu'il se présenta chez ses parents pauvres de Saint-Germain, l'opulent docteur Dupin ne voudra trahir le beau côté de son caractère. Et au grand émoi de sa jeune compagne, qui n'y entendait rien, on le vit immédiatement rejoindre le gabier pour lui tendre les bras après avoir bien vérifié son pressentiment. « Toi, ici, Jean ? Comment et pourquoi ?» Il n'eut que faire d'attendre une réponse que Jean, trop vivement ému, ne pouvait tout d'abord lui donner. Jean, dont le visage basané par le grand air des mers et le soleil du Midi, voulait cependant rougir et dont l'œil pourtant si viril roulait dans un pleur. « Ah, je comprends tout, va. Après la mort de ma chère bonne tante, le cœur déjà trop malade, tu as donné dans le coup de tête, hein ? Je ne t'en fais pas le reproche. Je te plains, quoique tu paraisses m'avoir trop tôt oublié. » Jean lui pressa les deux mains, essaya de sourire à la charmante cousine que lui présenta son cousin, mais il n'eut pas le temps de se prêter à l'effusion de ses sentiments, car un impérieux son de cloche l'appela là-haut, dans le nid de corneille où veille la vigie. « À demain, Jean !» Et pendant 4 heures, Jean, dans les airs et dans la nuit, verra scintiller des astres au ciel bleu, poindre au loin des feux de marine à signaler, et 1000 tendres souvenirs consteller son âme. Ils s'élèveront, ses souvenirs et ses émotions, de son enfance et d'une terre lointaine, par-delà les mers, pour lui dire en le consolant que sous ce ciel d'Italie, sur ce navire étranger, au milieu de cette cohue de voyageurs indifférents, il n'est plus seul comme il sentait si bien l'être il y avait quelques heures à peine. Non pas tant parce qu'il a retrouvé dans son cousin Émile Dupin la parenté et l'affection d'un cœur noble, mais un être isolé comme lui, de tous ceux qui ont vécu de la vie des siens, parce que ce cousin rappelle plus vivement le pays qui lui a mis au cœur un sentiment aussi ravivé dans nul autre pays. N'avait-il pas raison, le vieux curé de Saint-Germain? Il existe donc un amour irrépressible de la patrie. Dans la matinée du lendemain, les touristes, après le petit déjeuner, ne remarqueront pas plus qu'il ne faut la conversation étrangement intime que tiendront à l'écart un gentleman américain et un gabier du bord. Nous laisserons les touristes à leur étonnement pour entendre ceci. « Mon cher cousin Jean, je ne te demanderai pas de me raconter l'histoire de ta vie récente, depuis nos vacances de Noël l'an dernier. Je la connais, ou je puis la supposer. Bien plus, comme je crois avoir été pour toi, involontairement, je t'en assure, la cause de certains cruels mécomptes, tu me permettras, à moi, ton parent le plus rapproché, de m'intéresser à ton avenir. Et d'abord, encore une fois, sans reproche irritant, dis-moi pourquoi, seul et libre, ne m'as-tu pas recherché au lieu de te jeter dans l'aventure? J'ai vécu de mon côté des événements rapides et fort graves, décès subit de mon père, biens de succession à régler, exploitation considérable à maintenir et assurer, examen professionnel à subir, et mon mariage, enfin. Si tout cela a pu me faire oublier d'aller à toi, pourquoi n'es-tu pas venu à moi? Est-ce ton vieux précepteur qui t'en a empêché? Comment as-tu voulu aussi lui abandonner? Loin de rechercher personne, je n'ai songé qu'à fuir. Fuir ce village où j'allais languir dans la pauvreté. Fuir le cher vieux curé qui n'y pouvait plus rien. Me fuir moi-même dans mon personnage humilié. Jean se soulage enfin des rancœurs qu'il avait accumulées depuis 10 mois, contre ce qu'il appelait sa triste destinée. Et Jean Pellerin fuit sa destinée, ou court après la fortune sous la vareuse d'un gabier? Non, il y a mieux que ça, vois-tu. C'était de te rappeler ce que je te disais à bord du Dauphin. C'était de mettre en valeur, et non pas déguiser, ton instruction déjà notable, ta vigueur physique, ton énergie, ton intelligence à l'affût des connaissances nouvelles à acquérir. Avec cela, si la terre des ancêtres canadiens fait défaut, on s'empare légitimement et vaillamment des capitaux de l'étranger. Je sais que ton éducation ne t'a pas préparé pour cette vie-là, non plus que pour la vie de marin, du reste. Mais avec les ressources intellectuelles que tu possèdes, il faut savoir parer aux impromptus de la vie. Ne serais-tu pas romanesque, Jean? N'y a-t-il pas chez toi un peu trop d'orgueil inerte, avec trop peu d'énergie? Je connais bien des gens aux États-Unis qui recherchent leur destinée dans le travail, au service de la volonté, qui cèdent pour être aidés du ciel. Dans la lutte de la vie comme à la guerre, fuir, c'est trahir. L'affaissement, c'est la défaite. Et je m'étonne que l'élève d'un si bon vieux prêtre n'ait pas mieux retenu ses leçons, rien moins que fataliste. Mais tu l'as voulu fuir aussi, celui-là. Que pouvais-je faire, moi, Saint-Germain, sans profession, sans métier, sans autre ressource que le travail du mercenaire, avec, en plus, ce que tu appelles mon orgueil de déclassé, qui existe tout de même et fait souffrir? Tu pouvais faire face à l'avenir et non pas fuir, poursuivre une destinée nouvelle, comme a fait mon père. Lui aussi a dû un jour renoncer à la terre canadienne qui lui était devenue ingrate. Il ne connaissait des aciéries que le fer de ses voitures et de ses grotesques outils de laboureur. Ce qui l'a conduit à la fortune, ce n'est pas d'avoir fui au-delà des mers, mais d'avoir su changer sa destinée, qui le trompait comme la tienne. Car la Providence, ce qui vaut mieux que ta destinée païenne, nous demande surtout de savoir bien choisir. Il me tarde maintenant d'en venir à la conclusion pratique de mon homélie. Mon cher cousin, À la mort de mon père, je n'ai pas voulu liquider l'entreprise qui a fait sa fortune. Nous avons transformé l'établissement en une sorte de commandite à l'américaine, qui m'en laisse en très grande partie la propriété en me libérant des soucis de son exploitation. Car, sans vouloir consacrer mes jours à la découverte d'aucun nouveau sérum ou spécifique de longue vie, j'entends vivre de la vie professionnelle. « Deus nobis haec ossia fecit », comme l'a dit ton ami Virgile. Or, la série de Charles Dupin s'appelle aujourd'hui « The Cincinnati Wadging and Steelwork ». Sans être sentimental, il me déplaît de voir s'effacer le souvenir avec le nom de celui qui a créé cette œuvre. Nous lui devons de le rétablir, ce souvenir, et ce sera par toi, si tu le veux bien. Je vais te donner toutes les lettres de créance et tout ce qu'il te faudra, et tu vas t'en aller conjurer ce que tu appelles ta triste destinée, auprès de ma mère, qui n'a eu, comme la tienne, qu'un seul fils à aimer. Aime-la aussi comme j'aurais voulu aimer plus longtemps ma bonne tante. Je serai là un jour pour te voir me donner raison. Mais que puis-je faire dans cette usine? Tout, en commençant par dépouiller la défiance de toi-même. Tu paieras d'assurance, de cette audace même qui conduit à la fortune ainsi que tes Latins le supposaient, et que les Américains en sont bien certains. Le travail le plus simple que tu feras d'abord serait celui du manœuvre, fais-le bien, avec intelligence. Autrement, mieux que tout autre, si tu le peux. Pour la mentalité américaine, c'est le gage le plus sûr des promotions, qui supplée aux diplômes et aux brevets. Je serai là bientôt pour seconder tes efforts, te substituer progressivement à la direction des affaires, dont je ne veux pas. Je veux t'apprendre ce qu'un travail généreux peut produire chez un peuple généreux. » Ces paroles énergiques de son cousin, l'offre et les moyens qu'il mettait à sa disposition, ouvrirent aux yeux de Jean Pellerin un aspect tout nouveau de son avenir. Un sourire aux lèvres et des larmes dans les yeux lui servirent de réponse et de remerciement. Ils se quittèrent à Rome, les bons cousins, heureux tous deux, l'un de sa richesse paternelle, l'autre de ses nouvelles espérances. Chapitre 10. Retour et départ. Il y eut grand émoi au village de Saint-Germain quand Jean Pellerin, après 10 mois d'absence, y arriva à l'improviste. Tous voulaient lui être sympathiques, parce que, victime d'un mauvais sort, il était resté digne de sympathie. Tous voulaient l'entendre, parce qu'il venait de loin. Ceux dont naguère encore la malveillance cancanière, qu'il avait tant redoutée, aurait pu s'exercer en s'amusant de ses déceptions, ne pensaient plus qu'à son dernier deuil et à son effort de volonté dans l'abandon. Mais personne ne fut plus sincèrement réjoui que le vieux curé, du retour de celui qu'il appela son enfant prodigue. Sa joie fut d'autant plus consolante qu'elle restait sans mélange. Que le front serein de ce prodigue, sa parole pleine de candeur et de franchise, ne rappelait rien de celui de la parabole. Comme il était heureux d'avoir à lui garder toute son affection et aucun pardon à lui accorder. Il voulut que Jean logeât chez lui, pour rétablir entre eux la plus grande intimité, comme autrefois, lorsque l'orphelin était son petit élève, et pour constater comment cet élève de prédilection avait pu profiter et rester digne de ses leçons. La mise élégante de Jean, non étrangère à la munificence et au goût des cousins, ses entretiens maintenant nourris d'une expérience toute personnelle, l'agrément naturel de son esprit en faisait un hôte intéressant, un charmant causeur. Mais encore une fois, nul plus que son précepteur ne devait se féliciter de cette transformation si prompte de l'orphelin pauvre. Il avait donc beaucoup à lui dire et à lui faire dire à son cher élève. Lorsqu'après les premières émotions du retour, il fut entendu que seul à seul, dans cette salle témoin de leurs études, on referait ensemble l'histoire très intime de ce récent passé, en vaticinant ensuite un peu sur le prochain avenir. Eh bien, Jean, puisque tu l'as quitté et y reviens, tu me le diras sincèrement, Avons-nous au cœur un sentiment qui fait regretter la patrie, qui la fait aimer davantage lorsqu'on y revient? J'avais bien cru que tu me reviendrais aussi de Québec. Mais non, et quand Charles Després m'a dit ta fuite, j'ai éprouvé l'un des plus grands chagrins de ma vie. J'ai prié pour toi. J'ai demandé à la bonne Providence de t'avoir en sa sainte garde. Mais dans mon cœur vexé, j'ai aussi demandé à la patrie de te faire souffrir un peu de son absence. Je te vois sourire. Ne l'aurais-tu pas quelque instant regretté? Remerciez la Providence qui m'a protégée. Remerciez aussi la patrie qui vous a plus d'une fois donné raison. Le vieux prêtre se lève. Il s'exalte, rit, gesticule, reprend son sérieux. Jean ne le reconnaît plus et l'écoute, ébahi, réciter des vers. « Je comprends qu'on délaisse un roi, mais la patrie, ce domaine humble ou grand par nos aïeux formés, qu'ils ont conquis, qu'ils ont gardé, qu'ils ont aimé, cette terre sacrée entre toutes les terres, faite du sang des fils et des larmes des mères, oh non, non, ce n'est pas possible. » Le jeune homme applaudit au geste du vieillard, mais s'attriste aussitôt. Il n'a pas encore dit, depuis l'heure de son arrivée, la vraie cause de son retour. Tant il lui en coûte d'avouer que cette patrie regrettée et qu'il a voulu revoir, c'est pour la quitter définitivement cette fois. Après d'habiles précautions, il attaque le sujet. La rencontre de son cousin sur la Méditerranée prépare l'esprit de son interlocuteur. Mais Jean hésite encore, se laisse presser de questions et finit par faire connaître la grande détermination qu'il a prise. « Dis-moi tout, n'omets rien, je t'en prie. Tu vas repartir encore à l'étranger, à l'aventure, sur terre cette fois ?»« Pardon, ce n'est plus à l'aventure, monsieur le curé. Voici des lettres, un engagement écrit par celui-là même qui me prend à son service, qui m'a procuré d'avance les moyens de me rendre chez lui, en me recommandant à la sollicitude de sa mère, qui n'exigera d'ailleurs aucune telle recommandation, parce qu'elle est la sœur de la mienne. Ne dites pas que c'est partir à l'aventure. Soit, je le veux bien, mais je ne pourrai donc plus jamais faire de mon chef aucun projet pour ton avenir. Je ne refuse pas de prendre de vous conseil, puisqu'avant tout c'est pour cela que je suis revenu à vous. Mon cher enfant, voilà que tu arrives et que tu veux repartir. C'est un double improviste qui à la fois m'enchante et me déconcerte. À mon âge, il ne m'est guère permis, comme à toi, d'ajourner mes conclusions et mes décisions. Mais tu ne refuseras pas ma vieille amitié que je vais tout de même te demander. C'est de me laisser un peu réfléchir pour toi. Je ne serai plus exigeant. Je n'ai aucune intention de t'imposer mes volontés. Et puisque tu veux bien tenir encore à mes conseils, donne-moi le temps d'aviser. Non pas à des projets qui m'ont jusqu'à présent si peu réussi, mais à de simples suggestions en vue de ton bien futur. À l'heure actuelle, c'est trop de données à la fois dans mon esprit. Il me faut coordonner tout cela. Ne me quitte donc pas avant que j'aie pu entrevoir la solution de ce nouveau problème de ta vie, dont j'ai fait une si grande part de la mienne. Demain, ces jours-ci, nous en reprendrons l'étude. Je prierai, je m'inspirerai du souvenir des tiens, et je ne demande plus qu'une chose pour aujourd'hui. Ne crois pas que je serai pour toi l'obstacle, mais l'aide. Ces généreuses paroles ont affermi la confiance dans le cœur de Jean. Pourquoi s'en irait-il de nouveau contrister son bon vieillard qui ne lui a voulu que du bonheur? Longtemps, ce soir-là, sous le toit hospitalier de ce presbytère qui avait si charitablement jadis abrité son enfance, il laissa, avant de s'endormir, flotter sa pensée au courant de tous ses souvenirs qu'il retrouvait à Saint-Germain après avoir déjà tant parcouru le monde. Repartir, oui, il le fallait bien. Mais non plus en désespérer comme il avait fait. Il prendra jour très prochainement, après avoir laissé au bon prêtre la consolation de juger que son élève affectionné est resté digne de ses leçons et de son affection. Le lendemain, ce fut avec un visage souriant et l'œil animé d'une intention sagement résolue que le vieillard entretint de nouveau son hôte. « Ah, j'ai bien réfléchi, va, mon Jean, depuis hier soir, et tu me voilà tout réjoui d'avoir trouvé la solution de notre problème. J'avais songé, car il faut bien maintenant tout dire, à t'acheter avec mes économies quelques arpents de terre à cultiver dans le haut de la paroisse, et voilà qu'il me faut encore déchanter. J'ai appris d'une première expérience qu'avec un très bon cœur, tu as un caractère altier, qu'il ne ferait plus bon de trop vouloir contrarier. Pour le peu de temps qu'il me reste à vivre auprès de toi, aussi je m'en garderai bien. Je serai encore assez heureux si tu veux, comme tu le dis, suivre un peu mes derniers conseils. Soyez certain toutefois qu'à votre égard, le cœur chez moi saura dominer le caractère. Puisqu'il en est ainsi, voici le bon conseil que j'ai à te donner. Tu ne t'en iras pas seul là-bas vivre avec tes parents riches. Non, pas seul, mais avec une épouse canadienne, afin que je sois plus certain qu'après avoir fait fortune, ce que je te souhaite bien, tu resteras le chef d'une famille toute canadienne, aux mœurs canadiennes, à la langue, à la religion, absolument canadienne-française. Ah, pauvre enfant, je sais bien que je suis assez malvenue pour te conseiller à l'article du mariage. Je vois ta figure s'assombrir, tes yeux s'abaisser pour ne pas me fulminer de reproches. Ce serait juste si je n'avais pas autant que toi souffert de notre première déconvenue. Mais remercions Dieu qui a voulu nous épargner les suites de mon écart de sagesse et me laisser la vie, sinon pour t'imposer de nouveaux projets, du moins pour te donner ces conseils que tu me demanderais d'ailleurs. Je te l'ai déjà avoué, j'avais mal choisi pour toi la compagne de ta vie. C'était une idole, vois-tu. Or, il ne faut plus croire en ce siècle aux idoles, ni aux idolâtres de salon. Avant le mariage, ces obséquiosités ridicules et ces abdications d'amoureux préparent les incompatibilités du ménage qui nécessiteront plus tard des éclats d'autorité. Il faut se défier de la femme qui aime à se laisser dire « Je vous adore », de crainte que, prenant son rôle de divinité au sérieux et s'autorisant de ce sacrilège, elle ne veuille encore se faire toute puissante. Tu n'aurais pas su commander dans ton ménage qui eût été un mauvais ménage. N'attendez pas de moi aucun reproche à ce sujet. Ce qui m'étonne plutôt, c'est votre proposition de mariage ici où je ne ferai que passer. Je ne suis pas encore établie. Comment pourrais-je assumer cette responsabilité avec autant d'incertitude ? Voilà une objection d'ordre purement matériel. Il est facile d'y obvier. Dis-moi seulement que Rose Després, qui t'a toujours aimé, ce que j'ai bien compris durant ton absence, pourrait être la femme de ton choix. Et la dot que je voulais employer à l'achat de quelques arpents de terre servira à votre installation là-bas. Qu'en dis-tu ? N'est-ce pas à elle, cachotier, que tu as voulu laisser la maison de ta mère avec tes adieux, dans ta grande désespérance l'an dernier? N'est-ce pas sur elle, en même temps que sur toi, que ta pauvre mère reposa son regard mourant, qui me parut, peut-être, à la fois une prophétie et une supplication? Tu ne saurais nier que l'affection de cet enfant pour toi est née dans les larmes de tes deuils et de ta pauvreté, non pas dans l'orgueil de salon. Jean n'avait pas encore revu la compagne de ses plus jeunes et plus tristes années. Ce jour même, ce fut avec un esprit averti et un cœur depuis longtemps prévenu qu'il voulut aller visiter, en second après monsieur le curé, ses bons voisins. Il trouva Rose grandie, embellie de tout l'amour incompris et latent qu'elle lui avait à son insu réservé. En obéissant à l'impulsion qui le ramenait passagèrement à Saint-Germain, il n'avait pas compris non plus qu'il poursuivait ce qu'il aurait bien pu appeler sa vraie destinée. Il sentait avec charme se transformer la douce affection ingénument entretenue depuis son enfance, et candidement, il ira immédiatement faire part à son conseiller de cette impression nouvelle. Il hésitait cependant à accepter ces offres trop généreuses. Comment pouvait-il, sans plus de réflexion, encourir semblable dette? Il ne pourra jamais laisser le bon pasteur se dépouiller ainsi de son avoir dans ce prêt établi sur aucune autre garantie que des espérances d'avenir. Laissez-moi partir, monsieur le curé, et si dans un an la Providence a béni mon travail, que j'entends bien poursuivre sous son œil, je reviendrai à Saint-Germain vous demander une autre bénédiction, sans vous priver par cet emprunt imprudent des moyens de subvenir à vos œuvres paroissiales. Mais non, mon cher enfant, qui te parle ici de près? Tu sais bien que je n'ai pas d'autres héritiers que toi, même chez des collatéraux. Et si tu étais notaire, tu appellerais ce que je veux te donner tout simplement un avancement d'oirie, peu de temps avant mon décès maintenant. Mais je ne veux pas t'effrayer avec la langue de nos notaires, toi qui vas bientôt forcément parler celle des hommes d'affaires. Quant à mes œuvres paroissiales, je te prie de me croire un peu plus rusé que tu ne le supposes. Une fois millionnaire, car tu vas devenir millionnaire, voyons, dans ce beau pays si riche et si généreux, qui attire un si grand nombre de nos bons Canadiens français. Quand tu seras millionnaire, eh bien, mes œuvres paroissiales, ou je me trompe beaucoup, ou mon Jean Pèlerin, se nommerait-il alors John Pilgrim, ne les oubliera pas plus qu'il n'oubliera Saint-Germain, sa chère petite patrie, où resteront pour toujours attachés, suivant la sainte volonté de Dieu, le souvenir de ses plus grands regrets, et suivant la mienne, celui de son plus grand amour terrestre. M'as-tu bien compris, Jean? Et si tu veux bien me comprendre, ne demande plus de délai comme un condamné, puisque de ton propre aveu, après avoir un peu parcouru le monde, subi le contact des réalités méchantes ou non de la vie, tu as l'inappréciable bonheur de conserver un cœur épris d'un amour d'enfance. Cet amour-là sera ta plus grande richesse. Et Jean, facile à convaincre cette fois, voulut bien comprendre. Un mois plus tard, le mariage de Jean Pèlerin et de Rose Després mettait tout le village en émoi. Ce n'était pas la noce fastueuse de l'année précédente dont on avait si longtemps causé dans l'ébahissement ou quelques jalousies secrètes, mais la manifestation des meilleurs sentiments que puisse éveiller l'humilité vertueuse. Et le départ très prochain du jeune couple pour le pays étranger ne faisait qu'ajouter à la douce sympathie dont il était l'objet. On le vit bien le jour où, avant de quitter leur paroisse natale, Jean et son épouse assistèrent à la messe que célébra à leur intention le bon vieux pasteur. Il y avait là grande foule, attirée sans doute par une certaine curiosité mondaine, mais plus encore par une respectueuse déférence à l'endroit du prêtre, spécialement chargé de bénir leur joie et de consoler leur peine à tous, dont la si pure et si généreuse affection allait être soumise à l'épreuve d'un adieu pour lui éternel. Aussi n'oubliera-t-on pas de sitôt les dernières paroles remplies d'émotion qu'il adressa quelques instants plus tard, au moment de leur départ, à ses chers protégés. « Mes enfants, partez, puisque Dieu le veut ainsi. Mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais, je vous en prie, ni la bonne terre canadienne, où j'irai bientôt rejoindre les vôtres, ni les braves gens qui vous ont vu grandir et partir en vous aimant d'un amour désintéressé, intime, national, que vous ne saurez retrouver nulle part ailleurs. Vous ne me reverrez plus en ce monde. Laissez-moi l'espérance que vous reverrez, vous, votre bonne paroisse natale de Saint-Germain. » Quand le soleil des jours sereins se lève du haut de la colline, la demeure des pèlerins mire encore dans l'onde de la grève son toit aigu, sa cheminée qui ne fume plus, mais toutes ses ouvertures sont masquées. La bardane et l'ortie envahissent partout les menus sentiers qui accusaient la vie aux alentours, et maintenant les êtres offrent à l'œil du passant la triste chose d'un foyer abandonné par des expatriés. Personne ne vient plus frapper à cette porte, toujours hospitalière, même en s'ouvrant sur la pauvreté. Elle s'est refermée pour ne plus s'ouvrir, comme celle d'un tombeau. L'ange tutélaire des générations qui ont vécu là, n'y voyant plus de berceau à protéger, a pris son essor au sortir de la dernière tombe et s'est enfui. Et quand le jour tombé, le phare s'allume et cligne au large, à la fenêtre du pignon rouge, l'âme familiale des pèlerins est éteinte et ne lui répond plus. Chapitre 11. Au travail. Deux grands sujets de contentement devaient inspirer à Jean Pèlerin, dès son arrivée à Cincinnati, l'idée que le bonheur allait enfin lui sourire. Ce fut d'abord l'accueil chaleureux que lui fit sa tante, déjà prévenue en sa faveur, tant par une lettre d'Émile que par la sympathie pratique qu'elle trouvait consolant de pouvoir lui témoigner dans leur deuil commun et son deuil personnel. Seul dans son opulence devenue de plus en plus oiseuse, la veuve Dupin, souffrant secrètement de l'absence et de l'émancipation définitive de son fils unique, s'ingénia à restaurer autour d'elle l'esprit de famille qui devait lui manquer durant de longs mois encore. Et Jean, qui l'intéressait si bien au récit de sa dernière rencontre avec son cousin par-delà les mers, aurait eu mauvaise grâce de ne pas accepter de vivre auprès d'elle, tout près d'elle, dans sa vaste résidence qu'il eût été trop pénible de ne laisser hanter que par les regrets d'une âme en deuil. Le bonheur du jeune ménage, sous l'œil de sa munificente charité, ne ferait-il pas sa propre consolation? L'autre sujet de satisfaction qui devait atténuer ses inquiétudes, Jean le trouva dans le haut crédit que son cousin avait su conserver sur la compagnie Cincinnati Wedging and Steelworks. Cette entreprise, depuis la mort de son fondateur, avait considérablement accru son champ d'opération, comme il arrive après réorganisation sous des mains nouvelles. Mais Jean put constater avec encouragement que le simple désir du jeune Dupin avait presque l'autorité du commandement auprès des directeurs actuels. Un vieil Américain facétieux, auquel il faisait part de sa surprise à ce sujet, crut lui donner le vrai mot de cette énigme en lui disant que c'était « un effet de capital ». Tout heureux de pouvoir en profiter, Jean s'employa moins à étudier l'exactitude de cette définition qu'à chercher les moyens personnels de seconder le haut crédit de son parentage. Au travail en participation de l'usine, trop souvent le tâcheron impersonnel joue le rôle d'une pièce dans l'outillage, recevant de celle-là et donnant à celle-ci l'activité dont le résultat s'obtient de l'action collective. Or, dans son dépourvu industriel, le jeune Canadien paysan avait trop bien retenu les leçons de son cousin sur la valeur de l'initiative personnelle dans le monde américain, pour se contenter d'y jouir de sa haute protection. En reconnaissance de cette protection, ce qu'il voulait lui offrir à son retour, c'était dans sa personne non seulement un homme utile, mais nécessaire. La tâche n'était pas mesquine. Il y avait été mal préparé, si ce n'est par les conseils purement spéculatifs alors dont Émile l'avait entretenu. Sous quel aspect, rebutant ou encourageant, allait-il se présenter à lui le fantôme du travail? Comment l'effort personnel, en marge du salaire quotidien, allait-il seconder ses vues? Quelle tangente lui fournira son intelligence pour le soustraire à la révolution machinale de la pièce d'engrenage? Quelle sera l'occasion qui lui permettra enfin d'attirer l'attention sur ses possibilités? Elle est bien simple et bien inopinée parfois, cette occasion. Des commandes à forfait, considérables et urgentes, devaient tenir les aciéries du pain pendant plusieurs mois au maximum de leur rendement. Toutes les divisions de l'usine, métallurgie, sidérurgie, etc., fourmillaient de travailleurs nombreux et entendus, au milieu desquels Jean Pèlerin, paysan, marin ou lettré, ne savait à quel titre s'introduire. Heureusement pour lui, cette presse même devait lui venir en aide. Dans certaines parties du vaste territoire de la République américaine, le déboisement trop complet des terres influe d'une manière souvent désastreuse sur les cours d'eau. Un mince filet de rivière, durant les périodes de sécheresse, deviendra parfois torrentueux à la suite de pluies abondantes, sapera ses berges et arrachera de leurs piles et de leurs culées des travées complètes de ponts. avec les mille causes journalières de collisions, de déraillements, de catastrophes de toutes sortes, auxquelles prête l'immense réseau de chemins de fer qui sillonne en tous sens le pays. Il fallait bien pourvoir, aux moyens pratiques et rapides, là où ils auront été impossibles à prévoir et à prévenir, de rétablir au plus tôt le trafic après ces accidents. On y a pourvu par l'organisation du Wrecker. C'est un train de secours composé d'une locomotive, d'une ou deux immenses grues volantes sur trucs, de plateformes chargées de matériaux, de fourgons ou de wagons, où toute une équipe, ingénieurs et travailleurs, trouve cuisine, dortoir et logement. Le télégraphe signale-t-il au commandant une catastrophe quelque part dans le rayon du circuit préposé à sa vigilance, le Wrecker part à toute vapeur. Le train présidentiel lui-même se rangera sur une voie d'évitement pour lui livrer passage, car il y a là-bas peut-être des mourants sous les débris fumants des wagons, sous la vapeur brûlante de la locomotive, renversée, écrasée en bas du remblai, entre les piliers d'un pont démoli, au milieu d'un cours d'eau glacé ou débordé, qui attendent et demandent dans les affres son arrivée ou la mort. Il arrive. Le chef ingénieur cherche et doit trouver d'un coup d'œil entendu la solution la plus expéditive du problème qu'offre ce désarroi pour sauver des vies en péril et rétablir la circulation du trafic, qui est aussi la vie dans ce monde des chemins de fer. Un contrat annuel liait la compagnie Cincinnati Bringing and Steelwork à l'obligation de fournir sur place aux chemins de fer de la division locale toutes les pièces métalliques jusqu'aux travées de pont tubulaires requises alors d'urgence. Jean n'avait pas encore choisi son emploi qu'une semblable commande l'appela presque forcément en ce cas d'imprévu. Un contremaître lui proposa, en attendant mieux, d'accompagner l'équipe appelée à reconstruire ainsi un pont métallique. Bien convaincu qu'il n'y a pas de saut métier et ne sachant pas se rendre autrement utile, il accepta l'humble fonction d'enregistrer des heures de travail, de commis aux écritures, puisqu'on le savait instruit, mais non sans songer un peu à son vieil éducateur de Saint-Germain et à ce qu'on lui avait dit un jour du licencié S-Lettres, heureux de se faire chauffeur d'automobile. Que son instruction lui serve aujourd'hui d'expédient dans l'humiliation, que demain un simple travail manuel le mette en vue, il avait l'esprit trop bien pondéré pour en tirer une conséquence erronée. Mais effectivement, dut-il bien souvent plus tard le rappeler en s'amusant, le point de départ de ses succès et de sa fortune, il le trouva dans sa vie de matelot, et non celle d'humaniste. À 50 000 de la cité, une travée de pont d'acier a été jetée dans la rivière et à demi ensevelie dans le gravier charrié par le torrent. Le Wrecker, rendu sur place et fermement apposté, la flèche de la grue s'incline, happe l'immense tube quadrangulaire qui se lève et secoue le gravier ruisselant sous lequel il était enlisé. Les câbles se tendent de plus en plus et l'un d'eux se rompt, fâcheux contre-temps. Il ne se trouve pas de rechange de son diamètre dans le matériel du train. Une course à la ville, c'est un retard de plusieurs heures. On tient conseil, on s'impatiente, chacun s'ingénie et y va de son avis auprès de l'ingénieur en chef, qui n'en demande pas autant et préférerait peut-être plus d'unité dans les bons conseils. Une idée pourtant bien simple et spontanée fatigue aussi l'esprit de Jean Pellerin, le commis aux écritures. Va-t-il se taire quand la solution pratique et certaine du problème, il la tient pour ainsi dire dans ses mains qui s'agitent nerveusement? N'est-ce pas là une de ces conjonctures où son cousin Émile lui reprocherait sa pusillanimité, son manque d'assurance, d'audace? Et si on le rattachait tout simplement, ce câble? S'écria-t-il enfin, comme malgré lui. Cette indiscrète intervention du pauvre Jean eut pour premier effet de provoquer un éclat de rire bien unanime de l'équipe et d'attirer sur lui un regard narquois du chef. « Et le nœud là-haut, mon brave, dans le palan ?» lui répondit charitablement l'ingénieur. « Il n'y aura pas de nœud !» reprend le Canadien, cette fois vexé et fort de sa conviction. C'est le deuxième effet de son incartade. Et d'un tour de main, avec un outil improvisé, Jean Pellerin, le matelot du Saint-Laurent, de l'Atlantique et de la Méditerranée, fait ce que l'on appelle chez les vrais marins une épissure longue. L'esprit américain n'est pas mesquin. La nouvelle recrue fut ce jour-là l'objet d'un triomphe. L'appareil fonctionna merveilleusement, le pont bientôt rétabli livra passage au trafic déjà congestionné dans les gares prochaines. Et j'en pouvais se dire qu'aux yeux du moins de ses compagnons d'équipe, il était spontanément devenu quelqu'un. Non pas une simple main à l'œuvre commune, mais une personnalité capable d'un travail que tout autre n'aurait pu faire ou imaginer. Accuser une utilité spéciale et aussi opportune dans une entreprise où il ne savait apparemment que faire, lui valut tout un brevet de métier, comme son cousin n'eut pas manqué de le lui répéter, au milieu de ces gens pratiques avant tout. Voilà l'effet moral qu'il se plaisait à déduire de tout ce bruit que l'on faisait maintenant autour de son nom. Il avait un caractère trop amène pour ne pas prendre du bon côté la plaisanterie de ceux qui désormais voulurent, en ébruitant sa prouesse, l'appeler du sobriquet de « John Splicer ». Il y trouvait un dédommagement dans la sympathie joviale imprégnant désormais son atmosphère et dans les regards de considération qui lui venaient maintenant des contremaîtres et des chefs d'atelier. Et quelques jours plus tard, un de ces derniers, homme très sérieux, même savant, dont la monomanie est de chercher à substituer partout l'électromagnétisme et l'électrotechnie aux anciennes méthodes, voulut attacher à son service spécial le déclassé canadien, autant parce qu'il lui paraissait intelligent que par déférence obséquieuse pour la haute recommandation du plus influent actionnaire de la compagnie. Jean n'eut garde de s'y refuser. Il prêta une oreille attentive aux suggestions de son nouveau protecteur, qui lui fit entrevoir, dans l'application des sciences nouvelles, un champ d'action non encombré, où son ardeur à l'étude trouverait libre carrière, et par-delà, une vision plus fascinante de son avenir personnel. Et pendant les mois qui vont suivre, nul ne s'étonnera de voir ce jeune homme énergique consacré au cours des écoles techniques des heures qu'on lui permettait complaisamment de soustraire au service de l'usine. Suivant ce novateur, il y avait de grandes réformes à faire pour répondre aux exigences économiques et pratiques, et moderniser enfin les modes d'opération jusqu'alors suivis. Entre autres, l'usage des fours électriques développant jusqu'à 3000 degrés centigrades de température s'imposait maintenant pour la préparation de l'aluminium, ainsi que des fontes de ferrosilicium, de ferromanganèse et de ferronickel. Les théories du technicien ne trouvèrent pas dans l'usine d'adeptes plus dociles et plus convaincus que Jean Pellerin, bientôt passionnément adonné à l'étude théorique et pratique des réactions électrothermiques. Entre-temps, dans la riche demeure de sa tante Dupin, le jeune homme pouvait compter sur deux affections sans mélange qui entretenaient ses énergies, et en ses rares moments de loisir, il résistait malaisément au grand désir de faire savoir au bon curé de Saint-Germain combien il lui paraissait tout de même dès lors facile de vivre heureux sans la patrie. Ne lui reprochons pas ce sentiment passager, puisque ce n'est encore qu'une première flambée de soleil dans son ciel morne. Lui-même, du reste, ne manquera pas de réserve dans les lettres pleines d'effusions reconnaissantes qu'il adresse au vieillard, cherchant plutôt à le consoler de son absence par son propre encouragement. Il appréciait de mieux en mieux l'éducation dont il lui était redevable, car si nous avons pu reconnaître, au début, que ses premières études, seules à seules, du vieillard et de l'enfant n'étaient pas sans inconvénients, elles offraient cet avantage que Jean, de bonne heure, avait été traité en homme, et que l'on gagne beaucoup à donner à la jeunesse une haute opinion de ce qu'elle peut faire. Elle vous croit aisément quand vous lui montrez de l'estime. Cet âge n'a que la candeur de l'amour-propre et n'en a pas les défiances. Aussi, la confiance en soi-même, la self-reliance, si chère aux Américains, ne lui fera-t-elle pas défaut? Là où l'oncle Dupin avait dû le succès à l'occasion favorable qui passe et qui entraîne, beaucoup plus qu'à son savoir, lui, Jean Pellerin, se trouvait en moyen de susciter cette occasion et de l'asservir à son intérêt. C'est à quoi il s'évertua par une brigue discrète auprès de ses supérieurs, surtout par des études et un travail personnel qui devait bientôt le faire dominer ses égaux. C'est ainsi que sa distinction le conduira même un jour jusqu'aux honneurs civiques. Mais il sacrifiera peu de temps à la chose publique, moins par égoïsme que parce que, dans ce pays étranger, il ne pouvait souffrir de la passion des honneurs, comme il l'eût fait sans doute dans sa patrie natale. Toutefois, il n'en était pas encore à la recherche, même momentanée, de ce prestige. Il avait en tête une préoccupation plus légitime, l'appétence d'un honneur aussi, celui de faire voir à son cousin Émile, dont le retour s'annonçait, combien, durant tous ces mois qui se sont succédés depuis leur dernière entrevue sous le ciel d'Italie, il a su profiter à la fois de sa faveur et de ses conseils. Tel est l'orgueil qu'il entretient. Par faire de mieux en mieux pour l'arrivée de celui à qui il la doit, l'étonnante métamorphose qui a fait du paysan ou du matelot un savant métallurgiste. Pendant ces 2 années, au cours desquelles le jeune médecin s'est plu, en jouissant de sa richesse, à compléter son perfectionnement intellectuel par l'observation dans les milieux renommés du vieux monde, aux usages encore forcément imprégnés d'aristocratisme, l'autre, par son travail et son intelligence, a su conjurer son mauvais sort. Autour de son nom règne déjà, si légère encore qu'elle apparaisse, une auréole qui le distingue dans la tourbe égalitaire de la société purement démocratique. Il est devenu quelqu'un.